Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Chers amis, bonjour. La semaine dernière, avec René-André Bentoussan, nous avons parlé de la construction de l'histoire. Eh bien, cette semaine, il sera aussi question de construction, mais cette fois de construction du patrimoine de notre chère ville de Marseille, et ce, avec notre invitée, Judith Aziza. Judith Aziza est docteur en histoire d'Aix-Marseille Université et consultante en communication basée sur l'histoire. Judith Aziza anime des cafés histoire avec plus de 100 personnes à chaque conférence. Elle a écrit 4 livres sur Marseille, « Soigner et être soigné sous l'Ancien Régime », l'objet de sa thèse, « Une histoire de Marseille en 90 lieux » aux éditions Gossen, sorti en 2019 et tiré à plus de 5000 exemplaires, « Une histoire de Marseille en 90 autres lieux », toujours chez Gossen, en 2021, et enfin « Marseille réinventée » de la Joliette à Arinc. Elle anime sur les réseaux sociaux depuis 2016 des comptes dédiés à l'histoire de Marseille sur Facebook et Instagram. Bonjour Judith et merci d'être avec nous. Ton travail sur Marseille et son patrimoine a fait découvrir notre ville à bien des aspects. Peux-tu nous dire d'où vient cette volonté, mais aussi cet amour, de faire découvrir notre ville, son évolution à travers l'architecture, mais aussi l'aspect social et culturel?
Merci beaucoup, bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je crois que tout est parti d'abord d'une passion, celle de l'histoire, parce que depuis que je suis toute petite, j'étais passionnée par l'histoire. D'ailleurs, j'en ai fait le centre de mes études, donc à l'Université d'Aix-Marseille, parce que j'ai étudié donc, cette discipline et bien d'autres, mais disons que l'histoire est restée au cœur de mon cursus, puisque j'ai d'ailleurs soutenu en 2008 une thèse sur l'histoire de l'Hôtel-Dieu de Marseille au XVIIe et au XVIIIe siècle. Par rapport à ma carrière, par la suite, je me suis complètement réorientée, je suis partie dans le secteur communication. Néanmoins, l'histoire ne restait jamais loin, puisque je continuais à participer à des colloques, à écrire des articles, à faire de la recherche, mais sur mon temps libre. Et en 2016, j'ai une amie à moi, Noémie Soria, qui a commencé à me poser des questions sur l'histoire de Marseille, mais une histoire beaucoup plus récente. Et je me suis aperçue que, malgré toutes les recherches que j'avais pu faire, j'étais très focalisée sur le XVIIe et le XVIIIe siècle, et que finalement, il y avait beaucoup de passages de la ville qui m'échappaient. Et du coup, j'ai décidé de m'y intéresser et de partager avec elle mes recherches, donc tout d'abord sur Facebook, où donc je lui écrivais des petites chroniques. Et puis ces chroniques, je me suis aperçue qu'elles intéressaient de plus en plus de gens. Et de là est née l'idée de créer l'association Une Histoire de Marseille, ainsi que les comptes Instagram et Facebook Une Histoire de Marseille, sur lequel je diffuse quasi quotidiennement, avec l'aide d'autres contributeurs aussi, des informations sur l'histoire de la ville, où on parle de l'urbanisme, du patrimoine, et qui tout ça nous permet une chose, c'est de comprendre comment Marseille s'est construite, comment elle est devenue la ville qu'elle est aujourd'hui.
Alors moi j'ai noté ce que tu viens de dire, à savoir que tous les jours ou tous les deux jours, tu sors une nouvelle notice, si je puis dire. Ça paraît être un travail absolument énorme.
Oui, alors je le fais sur mon temps libre en parallèle de mon activité professionnelle, puisque comme tu l'as indiqué au début, je travaille en tant que consultante en communication, mais toujours basée sur l'histoire. C'est-à-dire que je vais, pour certains grands groupes, ou animer des conférences, ou faire des recherches sur des lieux précis, sur des sites, pour valoriser un site, un édifice, un patrimoine particulier. Donc en parallèle, en fait, à titre personnel, je m'intéresse à l'histoire de la ville et je fais des petits reportages sur son patrimoine qui sont composés d'une partie de photos d'archives que je fais ressortir, qui sont souvent issues des fonds d'archives locaux comme les archives municipales, les archives départementales. Mais également, j'ai la chance d'avoir accès à des fonds de collectionneurs privés, dont le fonds de Thierry Masson, que je salue, qui est un chercheur lui aussi, mais dans une autre discipline, mais qui s'est pris de passion pour l'iconographie début XXe siècle notamment. et qui met à la disposition des membres du groupe une base de données dans laquelle je peux piocher et je peux partager grâce à lui des petites pépites qui nous retrouvent, comme bah, par exemple des vues du rond-point du Prado avant 1875, là, celle qui a été la plus illustre qui est parue, ou alors, comme on le découvrira un peu d'ici peu dans le petit film qu'on a réalisé avec l'association, des photos de la corniche qui datent du 19e siècle.
D'un petit film que vous avez réalisé ?
Alors en fait, avec l'association, on diversifie les supports. C'est-à-dire qu'on est une équipe d'une dizaine de bénévoles, pas forcément des historiens, on vient de toutes disciplines, mais on a comme point commun de vouloir valoriser l'histoire de la ville, et on le fait chacun avec nos compétences. Et en l'occurrence, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Alexandre Sebag, donc qui est l'un des bénévoles, qui dirige une société qui s'appelle Toda, qui est une société de production audiovisuelle, et grâce auquel l'association peut produire des films sur l'histoire de Marseille. Alors tous les films sont visibles sur YouTube.
Sur YouTube,
il y a une chaîne, Une histoire de Marseille, sur laquelle vous pouvez déjà voir un film sur le parc Borély, un autre sur la Canebière, un autre encore sur le boulevard des Dames, et un café histoire même, qui a été réalisé par Alexandre. Et donc on a ces vidéos qui sont visibles donc gratuitement, en libre accès, sur les réseaux sociaux ou sur YouTube.
Alors, les cafés histoire s'attachent à présenter certains quartiers, certaines professions typiquement marseillaises. Quelle est la spécificité de Marseille selon toi et pourquoi aime-t-on Marseille ?
Alors, Marseille, c'est une grande ville, c'est une ville cosmopolite, c'est une ville qui a pendant des siècles drainé une population d'origine multiple et variée, que ce soit des Italiens, des Arméniens, des rapatriés d'Afrique du Nord, des Maghrébins, des Africains. Bref, c'est une grande cité qui a énormément de visages et ces visages font sa richesse. Et aujourd'hui, si on aime Marseille, il y aurait plein de raisons d'aimer Marseille. Moi, je vous dirais que c'est son patrimoine, d'autres vous diront que c'est le soleil, d'autres vous diront encore que c'est son accent. Peut-être que la globalité, c'est peut-être la chaleur humaine. Enfin, moi, c'est ce qui me plaît à Marseille, c'est la chaleur humaine. Et puis, on n'est pas forcément dans le moule, en fait, de certaines autres villes où l'individualisme est poussé parfois à son paroxysme. On est quand même dans une cité où vous pouvez vous asseoir sur un banc à côté de quelqu'un que vous connaissez pas et entamer la conversation sans problème, sans que ça prête à confusion. Et puis voilà, c'est comme ça. Marseille, c'est une ville où les gens se parlent, c'est dans notre nature.
Est-ce que le multiculturalisme fait partie du patrimoine de Marseille ?
Clairement, la ville s'est construite en fait grâce à ce multiculturalisme. Elle a été, on va dire, sculptée, ne serait-ce que par exemple les camps de transit qui ont été mis en place. Je pense là au camp du Grand Arenas qui a accueilli les Juifs d'Afrique du Nord qui étaient en transit pour partir vers Israël, ou encore le camp Odo qui accueillait les réfugiés arméniens qui ont fui donc la Turquie, notamment entre 1922 et 1927, c'est la date d'ouverture du camp, qui ont laissé la place pour l'un à la cité de la Cayolle et pour l'autre à une zone plus industrielle. Mais en attendant, on a un quartier du coup où il y a, dans les quartiers nord, où on va trouver beaucoup d'Arméniens qui ont laissé leur empreinte dans la zone qui les a accueillis. Et pareil, en fait, dans certains autres quartiers. C'est-à-dire qu'en fait, la ville, elle va être sculptée, on va lui donner une coloration en fonction des populations qui vont y vivre. Le quartier du port, par exemple, qui a été détruit en 1943, souvent on l'appelait la petite Naples, parce qu'énormément d'immigrés italiens y avaient fait souche et avaient amené avec eux leurs coutumes. Voilà. Et d'ailleurs, quand on voit des images de cette période, c'est très drôle, parce qu'on peut voir du linge aux fenêtres, pendre des gens dans la rue, des rues très étroite, et finalement on a peut-être l'impression de se trouver à Naples.
Bien, alors on va rentrer un peu plus dans le sujet. Tu dis, je reprends une phrase de toi, tu dis que l'évolution du centre-ville et le choix en matière d'urbanisme aura des conséquences sur l'économie. Je voudrais qu'on développe ça, et pour commencer, on a parlé du centre-ville. C'est quoi le centre-ville au début ?
Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui le centre-ville, c'est l'hypercentre, c'est-à-dire c'est en quelque sorte le cœur historique qui a été créé au XVIIIe siècle, enfin du moins à partir du XVIIe siècle sous l'impulsion de Louis XIV, c'est-à-dire c'est les quartiers par exemple de la Canebière, du cours Belzunce, du cours Saint-Louis, le début de la rue de Rome, le début de la rue Paradis, le quai de Rive-Neuve, tout ça ce sont des créations qui ont commencé à émerger à partir des années 1660, quand Louis XIV a voulu faire de Marseille un grand port. Le vieux quartier, le vieux Marseille, c'est bien entendu la rive nord du Lacidan, également l'hypercentre, là où les Grecs se sont installés il y a plus de 2600 ans, donc le quartier du Panier, les quartiers donc, qui sont en contrebas, qui jouxtent le quai du port. Tout ça, c'est vraiment l'hypercentre de Marseille, c'est là où, on va dire, le cœur de la ville a battu clairement jusqu'au début du 19e siècle, là où finalement le noyau de la ville s'est formé. Et un noyau qui s'est étendu d'abord au cours du 17e, comme je l'ai dit, sous l'impulsion de Louis XIV, donc qui a créé donc, le quartier Saint-Féréol, donc avec la rue Saint-Féréol, le quartier du Cours, qui allait à peu près jusqu'à la place de Rome, en l'occurrence. Et puis après, au 18e, cette extension a continué, le quartier de la Plaine, par exemple, qui s'est vraiment urbanisé à cette époque-là, du quartier du Cours Julien. Et puis au 19e, finalement, un siècle fondateur où la ville va vraiment s'étendre, où on va avoir l'émergence de nouveaux quartiers, comme Mpanti, qui va être rattaché au centre-ville par des axes routiers, comme la Caplette. Pareil, où on avait beaucoup de noyaux villageois autour de Marseille qui vont être raccordés au centre historique. On va lotir les abords de ces, des voies de circulation qui faisaient la jonction et ainsi des quartiers vont émerger.
Bien, alors je voudrais qu'on on revienne donc à cette construction par Louis XIV. Finalement, on avait décidé de faire ces quartiers pour des riches négociants, je crois.
Exactement. À la base, en fait, quand la nouvelle ville a été créée, les nouveaux quartiers, leur trame urbaine se différenciait vraiment de ce qu'on voyait dans la vieille ville. La vieille ville, c'était des rues étroites, 4 à 5 mètres de large, beaucoup, beaucoup d'immeubles, très peu d'espaces denses, des rues qui étaient plus ou moins pentues, et puis plus ou moins droites, et surtout pas droites, en fait. Et puis, dans la nouvelle ville qu'on construit, c'est le nouveau quartier, le quartier de Rive-Neuve, le quartier, donc, aujourd'hui, du cours d'Estiendorf, mais qui était celui de l'Arsenal, enfin du moins les autour de l'Arsenal, le quartier qu'on construit autour, le quartier de la rue Paradis, de la rue Saint-Fé, Réole, tout ça en fait ce sont des quartiers où on va avoir ce qu'on appelle une trame orthogonale, c'est-à-dire des rues droites, alignées, on va avoir le cours qui est lui construit sur un modèle baroque, d'ailleurs il était dit pendant longtemps que le cours Belzun, c'était, le quartier Belzun c'était l'un des plus beaux quartiers baroques d'Europe. On a vraiment cette ville qui est destinée à la base finalement à offrir aux riches négociants que le roi souhaite attirer sur Marseille, dans le port, pour faire fructifier le port, des terrains pour pouvoir construire des hôtels particuliers avec toutes les prestations, chose qui n'est pas possible dans la vieille ville puisque l'espace est trop dense, trop bâti, alors que dans ces nouveaux quartiers, on a de l'espace pour eux, pour qu'ils puissent créer des hôtels particuliers. Des hôtels particuliers qui existent d'ailleurs encore et toujours. Hein. On a par exemple le lycée Montgrand, qui est un héritage de ces belles bâtisses qui a été construit au 18e.
Ça s'appelait, je crois, Rome... comment ? Non, je ne sais plus. Hôtel Rome de Corse, non ?
Quelque chose comme ça. Roue de Corse. Voilà, Hôtel Roue de Corse, oui. Qui a été bâti vers 1746. Et on a un peu plus loin le musée Cantini, oui. Qui était en fait, à la base, un hôtel d'une compagnie de commerce, celle du Cap-Nègre. On va avoir aussi des hôtels comme l'hôtel Pascal, qui se trouve à l'angle de la rue Saint-Féréol, de la rue Paradis, et je crois que c'est... Alors, je vais pas vous dire de bêtises, donc je m'abstiendrai. C'est, en tout cas, cet immeuble, il est assez reconnaissable parce qu'il abrite aujourd'hui au rez-de-chaussée un magasin d'habillement pour hommes haut de gamme qui, pour certains, dont la marque résonne assez mal, puisque cette marque était connue pour avoir fait l'uniforme des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, on ne citera pas, on ne fera pas de publicité. Mais en attendant, voilà, cet hôtel particulier qui fait partie de ces constructions qui datent du 18e et qui faisaient la splendeur de ces nouveaux quartiers.
Est-ce qu'il y avait aussi des constructions d'appartements plus modestes pour des gens ?
Alors, on a eu des immeubles de rapport, c'est ce qu'on appelle donc avec un propriétaire, puisque le système de la copropriété est quelque chose de très récent. Avant, c'était un propriétaire qui faisait bâtir un immeuble et qui louait les appartements. Oui, on en a eu, notamment du côté du cours, dans les rues, par exemple, rue Tubano, dans les rues derrière, qui étaient quand même des rues qui étaient réputées quand même pour avoir des beaux logements, des beaux appartements, loin de l'image qu'on peut avoir de la rue Tubano dans les années 80 à Marseille.
Oui, voilà. Ça a changé d'ailleurs.
Oui.
Voilà. Bon, alors, la zone de commerce, ça se situait où ?
Alors, la zone commerciale, c'était vraiment le quai du port et la vieille ville. On avait une halle qui se trouve aux poissons, notamment, qui se trouvait à côté de l'hôtel de ville. On avait différentes rues, la rue Bonnetterie, en fait, par exemple, qui a été nommée comme ça parce qu'il y avait des bonnetteries qui étaient installées, des sortes de bonnets, mais également des magasins. Voilà, c'était la vieille ville où le commerce battait son plein. La zone qui a été créée au XVIIe siècle, c'était véritablement plus une zone résidentielle.
Ensuite, l'évolution de Marseille, ce serait intéressant de voir un petit peu l'arrivée du tramway et puis finalement arriver jusqu'à la fin avec l'arrivée du métro.
Oui, alors après, cette ville, elle a vraiment évolué. D'abord, comme à cause de la poussée urbaine du 19e et du 20e siècle, on a vraiment une ville qui s'est agrandie. Aujourd'hui, Marseille, c'est 24 000 hectares. Donc, c'est une ville énorme. C'est une ville qui, de nord en sud, fait 40 km. Donc, on a une ville qui, finalement, est très étendue, avec plusieurs petits centres urbains, les noyaux villageois, qui continuent à exister, et un hyper-centre où se situe donc une zone commerçante et qui continue à être attractive. Alors autant qu'elle puisse l'être, ces dernières années, ça a été compliqué pour de nombreux commerçants du centre-ville, mais ces dernières années aussi, on peut le dire, qu'il y a quand même une renaissance depuis 2-3 ans. Alors bon, crise du Covid a arrêté tout ça, mais il y avait quand même une volonté de la municipalité, de la métropole, de redynamiser le centre-ville, de faire revenir des commerces, de faire revenir la vie en centre-ville, et les nouveaux arrivants, notamment post-Covid, pour le coup, contribuent vraiment à faire revenir la vie dans certains quartiers qui étaient plutôt tombés en déshérence.
En 1912... il s'est passé quelque chose. On a rasé le quartier derrière la bourse, je crois.
Exactement. En fait, en 1912, on commence il y a un grand plan d'urbanisme qui est lancé, qui vise en fait à démolir un quartier qui est jugé vétuste, qui est jugé hors du temps. Pourtant, il y avait de très beaux hôtels particuliers, mais c'est vrai qu'ils n'étaient pas ou peu entretenus. C'était un quartier qui datait pour une grande partie de l'époque médiévale. Donc on commence déjà à cette époque-là à s'attaquer aux vestiges médiévaux de Marseille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il reste très peu d'immeubles antérieurs au XVIIe siècle dans la ville, à cause des destructions successives, et notamment dans le quartier derrière la Bourse, où on en avait quand même pas mal, qui a été rasé entre 1912 et 1937, pour laisser la place au départ à rien, puisqu'il a fallu attendre 1958 pour qu'un véritable projet d'urbanisme soit mis en place par la municipalité, qui est donc la création des tours La Bourdette, et puis surtout la création du centre Bourse entre 67 et 77, une création qui a mis du temps à aboutir puisqu'on y a découvert les vestiges de Marseille antique.
Que sont devenus les gens qui habitaient dans ces quartiers qui ont été rasés à partir de 1912 ?
Alors, ces gens, ils ont été purement et simplement délogés, et on les a relogés souvent dans les quartiers nord de la ville, notamment du côté des Arnavaux, où il y a une cité HBM qui a été construite pour en accueillir une partie. On les a aussi logés dans le 10e arrondissement. Il y a la cité Lagardanne, au pied de Saint-Loup, qui a accueilli nombre des gens qui se sont retrouvés sans logement, puisqu'on les a mis à la rue. Voilà. Eux, on leur a trouvé une solution, ce qui n'avait pas été le cas quand on a construit la rue de la République, où on avait expulsé plus de 16 000 personnes pour ouvrir la voie de la rue de la République. Là, les gens s'étaient débrouillés comme ils pouvaient, et puis ça n'a pas été le cas non plus en 1943. Quand les nazis ont dynamité les quartiers du port, ces gens-là ont dû se reloger par eux-mêmes. Mmh. Après, il y a eu des indemnisations qui ont été faites après la guerre. En attendant, au niveau des mesures d'urgence, ce n'était pas la même chose.
Ça représentait combien de personnes ces gens qui ont été expulsés quand on a rasé ce quartier en 1912, beaucoup de monde.
Alors oui, mais j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était des milliers de personnes.
Oui. Je crois avoir lu, mais j'en suis pas sûr, peut-être c'est une bêtise, 120 000 personnes.
Non, c'est nettement moins. Non. Je veux pas m'avancer de chiffres, mais on est plus dans l'ordre de... Je ne veux pas m'avancer. D'accord. 20 000 personnes, c'est le nombre des personnes qui ont été expulsées pendant la rafle de 43.
Oui.
Donc voilà, 16 000, celui de la rue de la République. Après, derrière la bourse, j'ai plus le chiffre en tête.
Bon, ça va. Le tramway, c'est en 1876, je crois.
Exactement, la première ligne entre la Joliette et les Chartreux.
Et entre 1876 et l'arrivée du métro, il y a eu aussi des problèmes de transport, non ? On a utilisé les bus et puis...
Alors en fait, c'est juste une révolution dans le mode de transport. C'est-à-dire qu'à partir de 1876, on a mis en place les lignes de tramway, des lignes régulières qui desservaient quasiment toute la ville. Alors souvent, j'aime bien dire que Marseille, à la fin du 19e, avait le plus grand réseau de tramway d'Europe. Et puis, je me suis aperçue que c'était souvent mal interprété, c'est-à-dire que les gens faisaient le parallèle avec aujourd'hui en disant « Oui, vous voyez, Marseille, avant on avait plein de tramways, et puis aujourd'hui on n'en a plus. » Ah oui, c'est vrai. Avant on avait plein de tramways, aujourd'hui on n'en a plus. Mais aujourd'hui on a des bus. Et Marseille, il y a un réseau de bus qui est très développé. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Le tramway, c'est vrai, il allait partout, comme les bus le font d'ailleurs, mais il allait surtout très lentement. Il fallait vraiment prendre son temps. Et en fait, on ne peut pas comparer le tramway d'il y a 100 ans au tramway d'aujourd'hui. Ils n'ont rien à voir. Si on compare par contre le réseau de tramway avec le réseau de métro, là effectivement, il y a quand même une plus-value puisque le métro est ultra rapide. Après, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un réseau de transport en commun qui est essentiellement, majoritairement fait de bus avec tous les aléas que ça peut en générer. La majorité des zones, en fait, sont desservies par le bus. Alors, le problème du bus par rapport au tramway, ça va être la desserte, la régularité. C'est-à-dire qu'on a des zones qui sont, oui, certes, desservies par des bus, mais avec un bus par heure. Et ça, c'est véritablement le problème de Marseille aujourd'hui. Mais le tramway, il circulait peut-être plus régulièrement, mais, encore une fois, c'était un moyen de transport très, très lent.
On a parlé des différentes destructions, et tu as parlé aussi, bien sûr, de la destruction des quartiers du port pendant la guerre. Qu'est-ce qu'on a fait des gens ?
Alors, les gens ont commencé à être expulsés, en fait, par les nazis, donc par les Français, par l'État français, hein, parce que c'est l'État français qui a mené l'expulsion. Donc, une première partie a été envoyée à Fréjus pour un premier tri. Et puis, une fois que l'occupant et les Français, puisqu'ils ont été partie prenante, ont trié les indésirables, à savoir les juifs notamment, mais aussi les hommes qui étaient prêts à servir pour le service du travail obligatoire, donc comprenez les jeunes hommes forts et en bonne santé. Une fois qu'ils ont récupéré les gens qui les intéressaient, soit pour les tuer, soit pour les exploiter, ils ont renvoyé tout le monde chez eux avec comme mot d'ordre « débrouillez-vous ». C'est-à-dire que chacun a dû trouver une solution d'hébergement. Et il en a été ainsi pendant la guerre pour des milliers de personnes qui ont dû se débrouiller pour retrouver un toit. Alors certains sont partis dans d'autres villes de France, où ils ont été accueillis par des municipalités, dans le Gers, dans les Alpes-Maritimes, dans le Var. Mais en attendant, c'était un peu la débrouille pour chacun.
Alors on a traversé un peu le temps pendant toute cette période. Et que peut-on dire aujourd'hui de Marseille ?
Marseille, aujourd'hui, on peut en dire beaucoup de choses. On peut parler de son patrimoine, on peut dire que c'est une ville qui a une histoire riche, qui se découvre chaque jour, en fait, ne serait-ce que... Voilà, et la semaine dernière, on vient de redécouvrir des vestiges des remparts qui avaient été bâtis sous Louis XIV, justement pour enserrer la nouvelle ville qu'il voulait créer. Et donc, la boulevard des Dames, on a ressorti, les pelleteuses sont tombées sur des blocs qui représentaient certainement les fondations de ces remparts. Donc, Marseille, c'est une très belle ville, une ville qui se découvre finalement peu à peu, et qui est encore pleine de mystères.
En fait, une question, si on a le temps. Au niveau économique, par exemple, à Fos-sur-Mer, on avait beaucoup d'espoirs qui se sont avérés complètement défaits. Où on en est au point de vue économique de Marseille ?
Alors ça, c'est plus une question pour un économiste que pour un historien. Pour le coup, je ne m'avancerai pas sur ce domaine-là. Néanmoins, ce qu'on peut voir, c'est que, en l'occurrence, si on parle de Fos, on parle du port. Le port, c'est un organisme fondateur dans l'histoire de la ville, qui a commencé à se développer donc, dès l'Antiquité, puisque Marseille a été créée comme un comptoir de commerce, qui a véritablement pris son envol au XVIIe siècle, pour la première fois avec Louis XIV, donc quand il a notamment créé l'édit de franchise du port en 1669, ce même édit de franchise qui permettait à des juifs et à des protestants de venir s'installer à Marseille, alors que les statuts de la ville indiquaient que seules des personnes très catholiques pouvaient avoir le droit de cité. Louis XIV a en quelque sorte cassé ce monopole. Alors bon, les Marseillais sont revenus dessus, hein. Ils ont fait valoir leurs droits en disant qu'ils ne voulaient pas d'étrangers non catholiques. Donc finalement, les Juifs ont été expulsés en 1682. Et il faudra attendre la Révolution française pour qu'ils puissent y revenir. Mais en attendant, je clôt la parenthèse, cet édit de franchise a quand même permis de faire venir des négociants, de créer de nouveaux réseaux commerciaux. Et le deuxième envol du port, c'est au XIXe siècle, avec la colonisation, parce que Marseille était un port colonial, c'était la porte de l'Orient, comme on disait au début du XXe siècle, celle vers qui tous les navigateurs partaient à destination des contrées lointaines colonisées par la France, à commencer par l'Algérie, qui a été colonisée donc au cours du 19e siècle, et puis qui est devenu un département français à part entière, jusqu'à l'indépendance de ce dit pays en mars 62.
Encore une question, si on a le temps. La rue de la République. La rue de la République a été rénovée récemment. C'était une rue importante avant et qui était tombée un peu dans... Enfin, elle avait perdu de sa qualité, puis on a tout rénové. Qu'est-ce qui s'est passé et où on en est aujourd'hui, vous ?
Alors, cette rue de la République, quand elle a été ouverte en 1862, elle avait pour principe de relier le nouveau quartier portuaire de la Joliette et d'Arinque à la vieille ville, de façon à permettre un cheminement des marchandises et des hommes plus facile d'un port à l'autre, donc du vieux, celui qui était devenu le vieux port, mais qui continuait à accueillir des navires de la marine marchande, et le nouveau port de la Joliette, où donc des navires arrivaient. C'était une rue qui avait été conçue pour la grande bourgeoisie, sauf que les édifices qui ont été bâtis sur cette rue n'offraient pas les conditions que la haute bourgeoisie voulait, à savoir, pas d'écurie et pas de commun. C'était aussi un quartier qui était à proximité d'une zone populaire, qui est celle des vieux quartiers qui ont aujourd'hui disparu, mais du quartier du Panier aussi. Et donc les personnes les plus riches, en fait, ont, à partir du 19e, eu le choix soit de s'installer dans ce quartier-là, où il y avait certes de très beaux immeubles, soit d'aller plus vers le sud, se faire construire des résidences où elles pouvaient se faire bâtir des écuries, des communs et des petits hôtels particuliers. Et donc du coup, elles ont souvent opté pour le choix numéro 2, et elles ont donc contribué comme ça, dès l'ouverture de l'avenue du Prado, à ouvrir de nouvelles zones résidentielles plus au sud de Marseille. Voilà, et aujourd'hui, cette rue de la République, effectivement, elle a été complètement transformée. Le tramway y passe dans une grande partie. Il y a des nouvelles enseignes qui s'y installent. Et on redécouvre les merveilles de cette rue au niveau architectural qui compte des immeubles sans fin.
Bon, eh bien, l'heure est passée. Merci beaucoup. Je vois que tu es absolument incollable. J'espère que tu seras d'accord pour revenir. Nous aurons d'autres sujets à traiter.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci Judith. C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.